Nous sommes au Fresnois pour une exposition qui se poursuit encore un petit moment et qui s'appelle
Jusque-là.
Bonjour Pascal Prunier.
Bonjour.
Alors voilà, cette exposition donc s'est installée, je ne sais pas si on peut dire tranquillement.
Oui, on peut le dire. Elle s'est installée tranquillement le 4 février. Elle aura lieu jusqu'au 30 avril. Et donc c'est une exposition qui est le fruit d'une collaboration entre un artiste, Enrique Ramirez, une collection assez prestigieuse, la Fondation Pinault et le Fresnois. Alors nous avons il y a quelques années organisé, depuis quelques années, une résidence à Lens, en face du Louvre-Lens, en collaboration avec la Fondation Pinault. Et nous avions choisi l'année dernière Enrique Ramirez. Et nous avons voulu prolonger cette collaboration de Lens au Fresnois. Et nous organisons cette exposition et nous sommes partis d'un sujet qui est la question de la traversée, parce que c'est un sujet qui est vraiment un fil directeur pour comprendre le travail de Enrique. Et puis c'est aussi un sujet d'actualité, évidemment. Comme vous pouvez l'imaginer, derrière ce terme, on peut mettre beaucoup de sujets. On pense bien sûr, quand on pense à la traversée, on pense à la traversée des océans. Donc ça évoque la liberté, ça évoque les paysages, mais ça évoque aussi la question des réfugiés. La traversée, c'est aussi la question du passage, de la vie à la mort, des grandes traversées des peuples aussi dans notre histoire. Enfin, beaucoup de sujets qu'on retrouve présents dans les œuvres de ces artistes. Alors je vais tenter de vous décrire l'entrée de l'exposition.
Alors déjà, on peut dire que ce n'est pas la traversée du désert.
Non, il n'y a pas de traversée du, il n'y a pas vraiment de traversée du désert. Quoique, nous sommes dans une œuvre de Enrique à la frontière de la Bolivie et du Chili à 5000 mètres d'altitude. Et là, c'est un désert de sel. Et donc, une fois par an, il pleut. Et donc, vous imaginez 50 cm d'eau retenue par ce grand désert de sel. Donc, le ciel, là, rencontre la terre. Et là, nous sommes dans un endroit totalement flottant. Et c'est justement cet endroit que Enrique Ramirez a filmé pour représenter ce passage, un passage complètement surréel entre la vie et la mort.
Là, on a l'impression d'un univers luxuriant, enfin, si j'en juge par cette vidéo qui passe, qui défile devant nous.
Oui. Alors là, on est sur une autre traversée qui est une grande traversée au nord du Chili, où on arrive à un arbre qui s'appelle alercé, ça veut dire mélèze en espagnol. Et cet arbre mesure 70 mètres de haut et a 3700 ans. Et cet arbre représente pour nous comme une sorte de totem de la nature. C'est pour ça que l'artiste a souhaité le filmer. Et vous entendez peut-être derrière ma voix des chants d'oiseaux. Et donc il a fait un travelling vertical de la racine jusqu'à la canopée. Et au fur et à mesure qu'on avance doucement, où l'on voit l'écorce, la peau vraiment de cet arbre, petit à petit les sons vont se densifier. Et donc justement ça exprime que plus on monte dans les arbres sont des lieux de vie, et en même temps, plus on monte dans les arbres, plus la vie se densifie.
Donc ici, il n'y a plus beaucoup d'humains, enfin je n'en vois pas, sauf les artistes, il y a de l'animal, est-ce que c'est ce qui va nous survivre ?
Eh bien écoutez, c'est malheureusement, les animaux sont souvent embarqués, et notamment les mammifères, nos cousins, sont souvent embarqués, ils sont précurseurs de notre disparition, hein, puisque voilà. Donc je ne suis pas sûre, peut-être les méduses. Les méduses, je pense, ont une telle faculté de résilience qu'il est fort possible. D'ailleurs, elles sont là depuis 100 millions d'années. Nous, on est là depuis, disons, 50 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ils ont un peu d'avance. Et je pense qu'effectivement, les méduses, peut-être, nous survivront.
Donc, je pense qu'on peut dire que nous, on cause un peu. On est un peu la cause de notre repères plus ou moins annoncés. Les méduses s'adapteront-elles? C'est la question.
Oui, moi j'en suis intimement persuadée. Alors, pour vous revenir sur la question de l'exposition, peut-être qu'on peut aller vers le centre de l'exposition, hein, parce que je parlais de l'entrée. Donc l'entrée, c'est un magnifique arc-en-ciel réalisé par l'artiste Cassia Vidaldon, qui est vraiment complètement aérien au-dessus de nos têtes. Et là, on entend la voix, on se rapproche de ce fameux film qui se passe à Uyuni, où on entend la voix de Enrique Ramirez. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un soleil couchant absolument incroyable. Alors, je trouve que c'est aussi très important de montrer cela, parce que ce paysage va disparaître. Malheureusement, il va disparaître parce qu'il il contient une très grande concentration de lithium. Et donc, ce paysage va devenir une mine. Ce qui est donc, les artistes, parfois, nous donnent à voir un témoignage, nous font rêver sur des paysages. Ils les filment avant que ces paysages disparaissent.
Donc là, on a l'impression presque d'une image, d'une vidéo, d'une scène surréaliste. Bien sûr, c'est un film, mais en même temps, la beauté, l'esthétique pourrait laisser imaginer qu'il y a une part d'artificiel dans cette image.
Mais elle n'est pas du tout, je peux témoigner. Alors ce qu'on voit, c'est la représentation du diable, hein, puisqu'on est dans un moment effectivement très, très surréel. Et c'est tout simplement un habitant de Uyuni, qui a mis son costume, ce costume de carnaval, qui sont des masques magnifiques de diable. Et ces masques existaient déjà au moment des conquistadors. Et ces masques étaient réalisés pour effrayer les conquistadors. Et donc, il y a toujours cette tradition qui existe dans ces peuples. Et on voit cet homme qui remet et qui tire comme un chariot avec des vêtements noirs raidis par le sel, et ces vêtements ressemblent à des costumes du 19e siècle. Donc je pense que ça nous parle aussi de la colonisation de l'Amérique du Sud à la fois les dictateurs aussi, hein. Ça c'est au 20e siècle, on pense au Chili puisque Enrique Ramirez est chilien, mais aussi toute la colonisation économique de ce pays qui a beaucoup de ressources. Et voilà, donc là c'est l'homme, là on voit une image incroyable, incandescente, et de cet homme qui part vers son destin ou vers le ciel peut-être.
Donc ce monde qui a résisté aux dictateurs, aux dictatures, semble être fragilisé encore davantage par l'économie de marché.
Oui, ben notamment ces terres sont des terres, comme je disais, ce désert de sel est un désert qui contient du lithium. Et comme vous le savez, le lithium, on en a besoin pour nos batteries électriques. Et alors derrière nous, on a ce fameux bateau qui est complètement renversé et qui s'intitule Mirrors. Et en fin de compte, fait penser à tous ces bateaux, ces canaux, parce que c'est un petit canot fragile. Et donc, il nous fait penser à ces canaux qui tentent de traverser la Manche et qui sont malheureusement sont renversés ou les gardes frontières les renvoient vers la côte. Alors justement, cette œuvre, elle est en relation avec cette pièce qui s'appelle 4820 Brios. Alors Brios sont des pièces de cuivre et qui représentent la carte de la Méditerranée. Et vous comprendrez le lien entre cette pièce et ce que je viens de vous dire, parce que en 2016, il y a eu 4820 réfugiés, migrants qui ont traversé la Méditerranée et qui malheureusement se sont noyés. Et donc l'artiste a voulu leur rendre hommage. Chacun a une pièce, et cette pièce, qu'est-ce qu'on voit? On voit le bateau renversé, de l'autre côté les étoiles de l'Europe. C'est pour nous faire. Alors, ce ne sont pas des œuvres tragiques, parce que ce sont plus des œuvres vraiment à caractère poétique, On est vraiment dans une relation entre regarder les faits d'actualité, mais comme un poète. Hein. Et donc, ça, bien sûr, c'est une exposition qui nous fait renvoyer à nous-mêmes. Hein. Moi, je trouve, je remarque une chose, c'est la première fois où je vois une exposition où les gens restent autant de temps devant les œuvres, comme si toute la réflexion qu'on pouvait avoir par rapport à l'évolution de l'être humain, notre histoire, notre relation aux politiques, notre relation au social, etc., ou à l'environnement, toutes ces choses-là étaient posées par les artistes.
Alors, dans ce naufrage ou ces naufrages, est-ce que la collection Pinault est une valeur refuge ?
Je ne comprends pas votre sens de l'autre question. Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Bon, alors je peux expliquer. Hein, ou... oui. Voilà, en fait, on est dans des artistes soutenus par Pinault, c'est ça hein ?
Écoutez, ce sont, c'est pas vrai. Oui, ils sont soutenus parce qu'ils sont acquis. Mais ce n'est pas obligatoirement des artistes qui sont des artistes extrêmement reconnus. Bien sûr, quand on rentre dans une grande collection, d'abord, ça permet aussi de vivre pour les artistes, le fait d'être acquis. Mais on n'est pas dans le star system dans cette exposition. Enfin, je ne le ressens pas du tout comme ça. Mais vous savez, ces grands collectionneurs sont aussi... des personnes qui veulent aussi restituer, et notamment Pinault Collection, de permettre de comprendre notre monde contemporain. Alors effectivement, ils ont un pouvoir d'achat qui n'est pas le nôtre, c'est moins qu'on puisse dire, mais je veux dire, ils acquièrent des pièces, et ce qui est important aussi, c'est qu'ils nous les mettent à disposition gratuitement pour le public. Alors pourquoi ils achètent des pièces aussi importantes, c'est aussi pour peut-être gagner un moment d'éternité, c'est-à-dire de passer et d'être peut-être post-mortem.
Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans une vie, une entrée vers une fin dont on ignore l'issue.
Oui. Alors ne vous inquiétez pas, cette exposition n'est pas du tout morbide, hein, parce qu'au contraire, il y a la vie. Alors il y a un élément qui est très, très représenté dans l'exposition, c'est bien sûr, on avait parlé des océans, hein. Il y a beaucoup de pièces qui font référence aux océans, mais aussi vous avez beaucoup d'œuvres qui reprennent la métaphore de l'arbre. Donc on a parlé de Alercé, la puissance, vous avez au contraire... À l'opposé, cette merveilleuse pièce d'un artiste qui s'appelle Daniel Stimman-Mangrané, qui est le squelette de deux fougères capillaires. Et là, on vous montre la beauté et toute la fragilité de la nature. Et puis là-bas, vous avez une artiste israélienne qui va aller à la frontière sur un rocher marin. Nous sommes entre Jaffa et Tel Aviv. Donc, Jaffa... Donc, territoire palestinien, Tel Aviv, territoire israélien, mais il y a un rocher pour marquer la frontière et avec le drapeau israélien. Cette jeune artiste israélienne va filmer un homme qui va prendre sa barque, qui va aller décrocher symboliquement le drapeau. Et qu'est-ce qu'il va planter ? L'olivier, l'arbre bien sûr de la...
La Palestine,
non mais surtout de... aussi de la Palestine, bien sûr, vous avez raison, mais aussi de la paix. De la paix.
Donc la paix, effectivement, en ce moment un peu compliqué, on ne sait pas trop vers quelle dérive il nous emmène, la question de la paix se pose. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes avant aujourd'hui qui se sont posé cette question qui, j'imagine, va devenir un peu récurrente ?
La question de la paix ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Y a notamment, vous prenez cet artiste brésilien, Paulo Nazareth. J'allais dire Jésus Nazareth. Enfin, ça va plus, moi. Non, c'est Paulo Nazareth. Paulo, il montre en 2012 que sans papier, il est parti de Recife, au Brésil. Il était invité par un centre d'art à New York. Il a décidé de le faire à pied. Et il a fait à pied ce cheminement, ce long voyage pendant 6 mois. Et donc, il a photographié, d'ailleurs, et il montre tout l'accueil des communautés. Mais en même temps, il est aussi avec des pancartes en disant je suis aussi américain. Quand il arrive à New York, je suis américain, je suis brésilien, mais c'est l'Amérique, ce n'est pas que l'Amérique du Nord, c'est aussi l'Amérique du Sud. Et en même temps, on se dit que quand on voit une œuvre comme ça qui a été réalisée en 2011-2012, aujourd'hui ce n'est plus possible. Parce que quand il arrive en Arizona, il y a le fameux mur de Trump, et là le mur n'était pas encore construit, et voilà. Et donc ça, il nous parle aussi d'une forme de paix qui a disparu.
Non ? Alors quand on parle d'accueil, c'est évidemment quelque chose... Alors on en dit des choses un peu contradictoires. D'un côté on dit les nations les moins riches ont un certain sens de l'accueil. Nous on redécouvre la nécessité de l'accueil. Est-ce qu'on peut voir entre ces deux façons de concevoir l'autre ? Des évolutions.
Effectivement, beaucoup d'artistes ici au Fresnois viennent du monde entier. Donc on a eu des étudiants qui avaient des situations très compliquées dans leur pays. Je pense à une jeune femme qui était à la fois yéménite et Arabie Saoudite déjà. Elle était et elle peut plus. Elle a fait une œuvre au Fresnois justement sur les conditions des femmes en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, elle peut plus retourner dans son pays. Son travail est trop subversif. Donc on a effectivement on a eu un grand cinéaste artiste invité Wang Bing au Fresnois. Il y a 2 ans, et lui de même, il interroge effectivement, il a travaillé sur les camps d'enfermement dans le désert de Gobi en Chine, et malheureusement il ne peut plus retourner non plus en Chine. Donc on sait que les artistes parfois sont aussi font un travail de témoignage sur des situations complètement antidémocratiques. Et on a aussi des artistes d'investigation. Cette année, on a un jeune Taïwanais qui travaille sur la mafia taïwanaise. Et c'est pas une fiction, enfin c'est une réalité, c'est-à-dire il travaille, voilà. Donc ça c'est question, là on déborde un peu du sujet de l'exposition.
Non, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Wang Bing ici, et aussi l'artiste dont vous parliez, avait exposé cette œuvre qui bougeait, vous voyez, avec cette impression d'une vie dans un objet mouvant.
Oui, tout à fait.
Très impressionnant.
Oui. Alors, je vais dire que pour revenir sur l'exposition, donc on est ouvert du mercredi au dimanche. De 14h à 19h. Alors nous avons le vendredi 25 mars, nous avons une soirée, donc c'est gratuit, de 19h à 20h, où il y a des visites guidées de l'exposition, et ensuite à 20h il y a un chorégraphe, Sylvain Huc, dans le cadre du Grand Bain, du Festival du Grand Bain, va venir danser, réinterpréter les œuvres. Donc c'est un moment de convivialité, on pourra tout à fait discuter avec le chorégraphe. Et voilà, donc c'est peut-être un moment un peu privilégié de venir voir l'exposition en soirée, c'est de 19h jusqu'à 21h.
On peut conseiller les visites guidées du dimanche ?
Oui, absolument. Alors tous les dimanches, c'est gratuit, l'exposition aussi, pour tout le monde. Et tous les dimanches à 16h, il y a aussi une visite guidée pour ceux qui souhaitent être guidés dans cette exposition.
Voilà, la clôture est prévue
le 30 avril.
Merci Pascal Pronier.
À bientôt.